Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Grenouille et à l'Alcazar. L'Alcazar nous reçoit aujourd'hui pour une émission très spéciale consacrée à François de Roubaix, qui était un grand compositeur de musique de film français. Nous allons accueillir pas mal de monde sur ce plateau, une émission qui va durer 1h30. Et j'ai avec moi une animatrice de choix, puisque Patricia de Roubaix. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Et bienvenue aussi à Marseille.
Merci. Marseille, c'est une ville qu'on aime beaucoup et qui a une grande histoire dans la famille. Donc on est très content d'être là pour un hommage à François.
On aura l'occasion d'évoquer ça, justement, l'attachement à la mer et puis l'histoire, un peu le lien avec Marseille aussi. Voilà. Et puis Gilles Loison avec moi aussi. Gilles Loison, bonjour.
Bonjour.
Gilles Loison, vous avez écrit une énorme et une magnifique biographie de François de Roubaix.
Oui, pas tout seul.
Ouais, mais bon, c'est surtout vous qui avez travaillé là-dessus.
Oui.
Et donc François de Roubaix, Charmeur d'émotion, un livre qui vient de sortir, on peut dire.
Oui, depuis le 20 septembre.
20 septembre. Oui. Et vous avez déjà eu l'occasion de le présenter un petit peu au public, je pense au Divan du Monde.
Au Divan du Monde, le 8 et 9 septembre, voilà. Lors du grand week-end hommage à François de Roubaix, oui, où le livre était richement présenté sur un beau chevalet, et donc qui a séduit pratiquement tout le monde.
Très bien. Nous aurons aussi l'occasion de recevoir, il est déjà arrivé, il est là, Jean-Yves Guilleux, un réalisateur qu'on vous présentera aussi tout à l'heure. Bonjour Jean-Yves, tu peux prendre un micro si tu veux.
Bonjour Marseille.
Et bienvenue aussi à l'Alcazar, à Marseille.
Merci.
Et puis, nous aurons aussi l'occasion de recevoir, et là, on est vraiment très contents de les avoir avec nous aujourd'hui à Marseille, une partie de l'équipe du film de l'Homme Orchestre qui est présentée dans le cadre de cet hommage à François de Roubaix à Marseille, avec Serge Corbert, le réalisateur du film, René Goliard, qui est déjà dans la salle et qui viendra aussi nous parler puisqu'il a été chorégraphe sur ce film, et Rosario Luna, bien sûr, qui était la dernière compagne de François de Roubaix et qui joue aussi dans le film, qui est danseuse. Voilà, donc François de Roubaix, point de départ, on peut dire, on peut partir de même de sa jeunesse, puisque c'est quelqu'un qui était passionné de musique depuis tout jeune.
Oui, en fait, je crois que c'est une rencontre. Alors, je vais m'adresser à Gilles, parce qu'en fait, ce qui est assez amusant, c'est que pour savoir un petit peu, quand on a des questions à poser sur des dates ou très techniques sur François, je m'adresse en général ou à Gilles Loison ou à Stéphane Lerouge, qui s'occupe d'éditer les musiques. Donc, Gilles va peut-être me dire à quel âge mon père a eu sa première guitare.
Sa première guitare, c'était celle de sa mère, je pense.
Oui, c'est ça.
Non, ça, je sais pas, 12, 13, 14.
Oui, c'est même un peu plus tôt, je crois.
Un peu plus tôt.
Et en fait, il s'est retrouvé avec une guitare qu'on lui a offerte et il s'est mis à jouer de la guitare comme ça pour s'amuser. Et il s'est rendu compte, normalement, il était parti juste après le dîner, et il s'est rendu compte à 7h du matin qu'il était 7h du matin. Et à partir de ce moment-là, ça a tout déclenché. Et il s'est acheté un trombone opus et il a fait du jazz, beaucoup de jazz avec des copains et tout ça.
Donc précisons-le, il n'a jamais fait d'école de musique ni de conservatoire, par exemple.
Ah non, pas du tout.
Totalement
autodidacte. Aucune formation classique, ce qui probablement a pu lui donner cette grande forme de liberté qu'il n'enfermait pas dans un carcan classique qui est formidable, mais qui en même temps était peut-être plus difficile pour des gens du classique d'arriver à dépasser tout ce carcan d'enseignement qu'ils ont, et lui il avait ce ton de liberté pour des mélodies finalement assez évidentes.
Et oui, et alors en fait ensuite des rencontres, ça a fait partie aussi de la vie de François, des rencontres importantes dans sa carrière de jeune compositeur de musique de film, notamment une des plus marquantes, une des premières on va dire qui a marqué sa carrière, c'est sa rencontre avec
Robert Enrico. Oui. Par l'intermédiaire de Paul de Roubaix, le père de François, qui était producteur de films institutionnels. Et Robert Enrico, à un moment de sa vie, a rejoint Paul pour travailler avec lui. Et c'était à l'époque où François se cherchait un peu, il faisait de la musique et il aimait le cinéma. Et donc Robert a repéré ça assez vite et a proposé à Paul d'engager François pour son premier court-métrage, L'Heure de la Durance, en 1959.
Ah d'accord, ouais. Et le premier film en fait marquant, composé, la musique composée par François de Roubaix, ça a été quoi?
Premier long métrage grand public,
oui, grand public,
c'est Les Grandes Gueules en 1965.
Les acteurs.
Lino Ventura, Bourville bien sûr,
Michel Constantin, Marie Dubois,
Jassane,
bravo.
Oui.
Et l'histoire c'est quoi, juste qu'on situe?
En fait,
un homme des Vosges qui est parti au Canada.
Au Canada, qui revient, qui a hérité d'une vieille scierie désaffectée et qui va la remettre en route, et surtout pour la remettre en route, comme il ne trouve pas de personnel qui veut travailler dans cette série, parce qu'il y a un grand concurrent de la série qui bloque un peu ses embauches, il va recourir à du personnel de prisonniers, en fait, de libérés conditionnels.
Très bien, donc Les Grandes Gueules. Voilà, nous sommes en 1965. C'était un extrait des Grandes Gueules composé par François de Roubaix. Voilà. Alors, est-ce que ce film a permis à François de Roubaix, en fait, de se faire remarquer par les professionnels, les réalisateurs? Est-ce qu'il a vraiment pu s'imposer? Parce que c'était quand même les musiques de films dans les années 60. C'était comment?
Oui, je pense qu'il a commencé effectivement à se faire repérer à ce moment-là. Il s'est fait aussi repérer par le scénariste qui est donc José Giovanni. Et José Giovanni, je tenais à signaler aussi que Marseille avait une grande place dans notre aventure familiale, de part aussi mon grand-père qui a fait énormément de films institutionnels ici, avec François comme assistant caméra, assistant son et autres. Mais aussi parce que José Giovanni, et pour nous la Corse était quelque chose de très important, donc cette rencontre forcément devait se faire aussi avec José Giovanni, et qui a permis après de faire d'autres films, dont le premier
La Loi du Survivant en 1966.
Oui, donc tout de suite après Les Grandes Gueules finalement.
Oui, et réalisé en même temps que Les Aventuriers de Robert Enrico.
D'accord, et en Corse celui-ci.
Oui.
L'histoire, on peut dire, parce que les acteurs, c'est Lino Ventura, Alain Delon, Joachim Kuss.
Oui, il y a aussi Serge Reggiani.
Oui.
Il joue dedans.
Ouais. Et l'histoire, c'est quoi?
Ah, c'est de l'aventure.
Ils sont aventurés sans vraiment l'être, c'est ça?
C'est en fait, ce sont trois personnes qui se rencontrent, deux qui sont déjà amis, qui sont donc Ventura et Delon, et qui sont un peu des amis de l'extrême, l'un qui fait de l'avion et qui fait des paris fous, l'autre qui est sur le dragster. Et en fait, ils rencontrent cette jeune femme, Joachim Kuss, qui est une sculpteur un peu étrange sur des vieux morceaux de métaux qui viennent dans une carrosserie, c'est là où ils travaillent eux. Et ils vont partir à l'aventure, à la recherche d'un trésor en Afrique, et après ça se termine sur un Fort Boyard avant rénovation.
Eh oui.
Avec toute une série de gangsters. On ne va pas vous dévoiler le film quand même, mais je pense que beaucoup de personnes vont le voir.
On peut annoncer que c'est un film qui sera réédité l'année prochaine en DVD.
Absolument, par M6.
Voilà.
En version restaurée.
Voilà, avec des très beaux bonus, je pense. Et donc en fait, on est donc là en 66, si je ne m'abuse.
Oui.
Quelle a été en fait l'implication de François de Roubaix dans ce film? Est-ce que au niveau de sa composition, Est-ce qu'il a dû faire un travail particulier ou est-ce qu'il a dû suivre une partie du tournage pour pouvoir faire des choses ?
Il a fait une partie du tournage, mais on va même aller plus loin. C'est qu'il était avant, il a commencé à faire une maquette de la musique avant le tournage. Et donc Robert Enrico est parti avec cette musique dans la tête. Et c'est ce qui lui a énormément servi pour faire toutes les scènes d'amitié, toutes les scènes d'aventure. Il était chargé de la musique déjà dans la tête pour préparer les plans en Afrique, par exemple, notamment. Et dans ce film aussi, il y a une participation de Paul de Roubaix, puisque c'est mon grand-père qui a fait donc les prises de vue sous-marines. Et là, le thème qu'on entend, qui est magnifique derrière, qui est en fait un thème chanté par Christiane Legrand.
Et
la sœur de Michel Legrand. Et interprété à l'orgue par Michel Kloschkov.
Très bien. Bon, voilà, on a pas mal de renseignements. On va s'écouter un petit extrait avec un chanteur très spécial, un extrait donc des Aventuriers.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout. Moi, un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère, tu habillais nos printemps de chimères. Je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colore et de bleu nos chimères. Un oiseau chantait près de moi. Jamais il ne reviendra. Laetitia, non. Je ne savais pas, j'étais amoureux de toi.
Et bien voilà, c'était Les Aventuriers avec un chanteur de choix. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans le public. Non, vous n'avez pas reconnu ? Bien sûr, c'est Alain Delon, bien sûr. Bah, attendez quand même, il a fait une grande carrière dans la chanson aussi, Alain Delon le sait. Hein. Non, je rigole. Donc voilà, c'est quand même cette musique, moi personnellement, elle m'a beaucoup touché. En plus, elle a été rééditée très récemment, enfin récemment, on va dire, par le label Universal Jazz.
Qui édite énormément, oui, une très très belle collection.
Grâce au travail de Stéphane Lerouge, qui dirige la collection Écouter le cinéma. Donc je ne saurais que vous conseiller d'ailleurs de vous plonger dans cette collection.
Qui avait d'ailleurs fait aussi l'anthologie volume 1 et volume 2 chez FLG.
Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, c'est des volumes qu'on a du mal à trouver d'ailleurs maintenant.
Ça y est, c'est ressorti. Et avec l'association, on en a quelques exemplaires. Donc, ouais. Si voilà, un petit message est passé.
Donc, on reçoit Jean-Yves Guilleux. On l'a dit tout à l'heure, il est là avec nous. Jean-Yves, vous êtes réalisateur.
Voilà.
Et vous avez notamment réalisé un documentaire sur François de Roubaix, en 52 minutes, qu'on aura l'occasion de regarder justement. Ouais, après.
J'espère, oui.
Et. Pourriez-vous en fait nous dire quel a été le déclic, en fait, le départ, votre amour, j'allais dire, pour François de Roubaix, votre passion?
François de Roubaix, moi, ça a commencé avec l'âge commun. J'avais l'habitude d'aller au cinéma à côté de chez ma grand-mère, à Annette. Et donc, il y avait l'affiche de l'âge commun avec Belmondo, qui était mon idole. Et je suis rentré dans le cinéma et j'ai entendu pour la première fois la musique de François. Et ça a été un vrai déclic, quoi, un vrai choc, quoi. Voilà, ça me faisait penser à du Morricone. Et Et voilà, je me suis laissé embarquer par le film, par la musique. Et puis après, j'étais chez mon cousin qui avait les deux volumes de François.
On précise, voilà. C'était des volumes édités à l'époque par Barclay, en vinyle.
Oui,
il y en a eu trois au total. Je crois que le dernier est paru en 79, assez tard après la mort de François.
Oui, ça devrait demander à Gilles, c'est 79.
Exact.
Oui. C'est ça,
79. Oui, que j'ai jamais eu d'ailleurs.
Eh bien, il est encore disponible, enfin encore disponible dans les bonnes crèmeries. Hein. Il faut chercher un petit peu. Mm. C'est le plus rare. C'est vrai que c'est celui qui est le plus recherché par les collectionneurs de disques. Et donc, en fait, à cette occasion, quand vous avez écouté ces disques, vous avez pu vous plonger un peu plus dans cet univers de Roubaix et découvrir encore tous les films,
tout,
en fait.
Donc aussi, pratiquement tout, oui. Pratiquement tout. Puis j'ai vu tous les films aussi à l'époque avec mon père. La télé, quand la télé diffusait les bons films le dimanche soir,
oui.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, François, c'est fait partie de ma vie quelque part, quoi. Depuis que je suis petit.
Tellement que vous en parliez à des amis et vous disiez que c'était votre copain.
Ouais, parce que j'avais pris en photo l'intérieur de la pochette de disque, François en train de jouer de la guitare, j'avais pris en photo, et je le montrais à mes potes au lycée, je disais voilà, ça c'est mon copain, François de Roubaix. Voilà.
Donc François, vous
n'importe quoi, mais bon,
non,
c'est
non,
ça.
Non, mais
hein,
c'est moi
comme ça.
Je trouve que c'est tout mignon, choupinou, c'est vraiment
et
ça.
Et puis voilà, puis 30 ans plus tard, en gros, je fais un film sur François.
Et voilà. Voilà. Donc François vous a accompagné depuis votre adolescence jusqu'à aujourd'hui encore
et m'accompagne tout le temps. Ouais, je pense. Ouais, absolument.
Et est-ce qu'il y a quelque chose, le fait de dire que c'est ton copain, comment est-ce que tu le percevais justement? Quelle était cette dimension de, tu le sentais quelqu'un de proche de toi, enfin qui pouvait être ton copain justement?
Ouais, je pense que c'est ça. Et puis ces thèmes, je sais pas, ces thèmes sur l'amitié, sur les copains, sur l'amitié, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça qui me rapprochait de lui. Je sais pas comment je peux définir ça. Même en ayant fait le documentaire, en ayant appris encore plein de choses sur lui, en ayant croisé ses amis, toi, enfin, je sais pas comment je peux définir ça. Je sais pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est il y a un truc que j'ai pas encore. Je sais pas.
Je trouve que ça revient beaucoup dans les fans de François de Roubaix. Il y a quelque chose d'un peu d'impalpable comme ça, qu'on a du mal à définir en fait.
Côté accessible.
Ouais.
Et c'est vrai que moi ça m'a toujours marqué parce que depuis que j'ai 12 ans en fait, mon grand-père avait beaucoup de mal à. Et ma grand-mère avait beaucoup de mal à recevoir les appels des fans ou à rencontrer des gens s'ils étaient vraiment très choqués par sa mort. Donc c'est vrai que dès le départ, on m'a commencé à orienter tout le monde vers moi. Et donc les premiers fans que j'ai rencontrés, je crois que je vais avoir 12-13 ans. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'était vraiment ce côté accessible. Ils avaient l'impression qu'ils auraient pu le croiser dans la rue et lui parler, aller boire un café avec lui. Et c'est vrai que c'était exactement ça. Mais ça m'a toujours frappé qu'à travers une musique, des personnes puissent imaginer être tout à fait très proches et en contact aussi direct. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément.
C'est des témoignages que tu vas recueillir, je pense, que tu as déjà recueilli depuis un moment aussi, des témoignages de fans pour un travail.
Mais en fait, c'est vrai que les fans, alors bon, c'est un terme, mais ont vraiment une grande histoire, justement. Gilles Loison qui est là, Sandrine Tasso qui a monté le site François de Roubaix, Alex Mas, Yves Talandier, sont des gens que j'ai rencontrés qui étaient des fans et qui avaient déjà commencé à faire un travail autour de François. Et qui, donc, Gilles, depuis 10 ans, il écrivait son livre avec Laurent Dubois. Et ils ont fait tout un parcours comme ça de leur côté, puis après, on s'est rencontrés. Et c'est vrai que moi, il y avait un moment donné où il fallait effectivement que eux m'ont remis en place et en route pour qu'on aille un petit peu plus loin pour monter cette association et continuer à faire travailler, faire connaître, restaurer l'œuvre de mon père. Mais c'est vraiment les fans qui nous ont un petit peu bousculés et dit bon, mais nous, on veut pas l'oublier, on veut en connaître plus, on veut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Donc voilà, ils sont à l'initiative de ce qui se passe depuis. Donc Benjamin, toi, Laurent, qui pour la soirée de tout à l'heure. Donc toute cette émergence-là fait qu'on se rend compte qu'il est encore là, quoi. Il est vraiment là et présent. Et le fait qu'il soit mort jeune,
oui.
Je pense d'être mort comme ça, un grand Jésus-Christ blond avec la barbe et les cheveux longs et avec ce côté copain, c'est vrai qu'il est toujours accessible et par les musiques aussi, telles que celles que nous allons avoir dans le volume 2 du Monde électronique qui va sortir chez Universal et qui reprend, Jean-Yves, pas mal des musiques du volume 3 de Barclay, ainsi que merci, le premier merci. Volume.
La fête des deux avions, un morceau rare qu'on apprécie aussi beaucoup. Jean-Yves, ce documentaire, ça date pas d'hier, tu travailles dessus depuis un moment.
Non, ça date pas d'hier. Le documentaire, je le porte en moi depuis ce que je disais à Patricia quand j'avais vu les cérémonies des Césars, avec Paul qui venait chercher le César posthume. Je sais pas, c'est un truc qui m'a bouleversé, ému, enfin touché au plus profond. Et je me suis dit, un jour, je ferai un film sur François. Va savoir pourquoi. Et puis j'y suis arrivé, j'ai mis 4 ans pour faire ce film. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un peu compliqué. Mais oui, ça fait 4 ans de travail.
Et de rencontres aussi.
Et de rencontres.
De tous ces gens qui témoignent, qui parlent de François. Mmh. Bien, moi, je te propose, Jean-Yves, de te faire une dédicace spéciale en passant la Skoumoun.
Merci.
Voilà, 1972, La Skoumoun, un film avec Jean-Paul Belmondo. Jean-Yves, tu peux nous en parler un petit peu de ce film, pour ceux qui l'ont jamais vu ?
Ouh là là, là tu me fais replonger dans les... dans les souvenirs, j'ai pas vu le film depuis un petit moment. Écoute, ça se passe en 1930, à Marseille.
Eh oui, à Marseille.
À Marseille.
La Skoumoun, c'est à Marseille.
C'est un remake du propre film de José Giovanni. J'ai plus le nom en tête, mais Gilles va sûrement me le dire.
Un nommé La Roca,
déjà avec Jean-Paul Belmondo. Il n'était pas très très content de la version de ce scénario-là, donc il a voulu le refaire, toujours avec Belmondo, Constantin.
Claudia Cardinal.
Donc on a Marseille en 1930, il joue un nettoyeur, on va dire, en gros.
Oui.
Je crois que c'est ça. Qui fait un petit peu le ménage à Marseille, il est payé pour ça. Il y a une histoire de rivalité de deux clans. J'ai plus trop en souvenir le scénario. Gilles, donne-moi un coup de main, s'il te plaît.
C'est étendu sur une longue période. Ça commence dans les années 30, ça finit dans les années 40. C'est la pègre, la mafia, en fait, avec les gangs américains qui veulent mettre la main un peu sur tout ce qu'on appelle les bordels.
Non, il faut le dire, hein, voilà, les bordels. Hein.
La grande époque.
Très bien.
Et donc c'est toute la vie de ce fameux La Roca. Il s'appelle La Roca, sinon celui-là ? Non.
Oui, je crois que c'est ça. Si.
Ouais.
Oui,
c'est La Roca, voilà, en fait, bon, c'est la lutte permanente avec ces gangs qui veulent avoir la main mise sur ces entreprises. Mm.
Alors on a fait un petit peu un bond dans le temps là par rapport à tout à l'heure, parce qu'on s'est arrêté en 1966. Mais c'est important de dire aussi que François de Roubaix a commencé, alors tu me diras ça Gilles aussi, à composer chez lui. Dans ce qu'on appelle un home studio aujourd'hui, c'est-à-dire tout fait à la maison, avec les instruments, tout l'appareillage pour enregistrer.
Oui.
Ça commence avec quelle musique d'ailleurs, ça ? Il a commencé à enregistrer chez lui à partir de quand ?
De 1971. Première musique, ça devait être un court-métrage de Paul qui s'appelait L'Aquarium. Mm-hmm.
Incroyable de précision, je suis bluffé.
Et un autre film qui s'appelait Far From Dallas
De Philippe Toledano.
Philippe Toledano.
Oui.
Mais avant, les expériences de re-recording, en fait, ils avaient commencé bien, bien avant.
Alors, le re-recording, est-ce qu'on peut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce terme technique, c'est quoi ?
Re-recording, en fait, c'est la possibilité de s'enregistrer plusieurs fois tout seul en réenregistrant de manière conséquente chaque instrument. C'est-à-dire, il s'enregistrait, par exemple, il enregistrait une partie de trombone sur une bande. Il lançait la lecture et sur un autre magnétophone il re-enregistrait ce signal en enregistrant un autre instrument.
D'accord.
Et ainsi de suite. Mm-hmm. Bon, le défaut avec le premier magnétophone, c'est qu'on pouvait faire 4-5 enregistrements, puis après le premier enregistrement on l'entend déjà un peu moins, donc c'est pour ça qu'en 71 il s'est fait installer un magnétophone 8 pistes où là il avait beaucoup plus de possibilités de travailler tout ça.
Patricia, toi tu as de souvenirs de ce studio à la maison, rue de Courcelles, ouais, à Paris?
Moi j'ai des souvenirs formidables. J'ai des souvenirs déjà de la boîte à rythme. Il était comme un gamin, il me disait regarde, tu vas voir, tiens, tu vas avec ça, tu fais ça, puis hop, musique. Et ensuite, il y a eu le synthé. Alors là, le synthé, je ne sais plus si c'était le Korg ou je ne sais plus lequel il avait. À ce moment-là, je crois que c'est le premier qu'il a eu.
Le MS.
Ouais. Il était vraiment comme un fou, mais comme un fou. Il faisait des bons partout. Il me disait, tu veux que je te fasse la jungle ? Tu veux que je te fasse la jungle ? Regarde ! Paf, il tapait dessus, il nous faisait la jungle, un peu comme, comme la musique qu'on a entendue tout à l'heure. Et c'était vraiment, il est là, le singe, tu veux le singe ? Voilà, écoute le singe. Et il était vraiment comme un gamin. Je pense que Rosario, qui est là, ne va pas me contredire. Pas du tout, voilà le micro.
Rosario, bonjour. On le précise pour les gens qui sont là, les gens qui nous écoutent, vous avez été la dernière compagne de François de Roubaix. Et puis vous avez vous étiez danseuse, je ne sais pas si vous êtes toujours danseuse.
Enfin, je suis toujours danseuse.
Très bien, ça fait plaisir.
On ne peut pas changer ce métier.
Hein. Et non.
Rosario d'ailleurs qui a dansé sur un film de José Dayan dont un extrait a été repris dans le film de Jean-Yves Guilleux où on peut voir Rosario danser sur une des musiques qui s'appelle Charo étant le surnom de Rosario par François je crois, et qui donc danse sur cette musique dans le film de Jean-Yves Guilleux, dans le documentaire.
Bien, enfin, on va, donc en fait on évoquait le fait que François de Roubaix composait chez lui à la maison.
Oui.
Et est-ce que, donc 71, c'était le point de départ pour ça, pour ce travail à la maison, mais est-ce qu'on n'a pas évoqué une musique de film importante aussi dans sa carrière, c'est Le Samouraï ?
Oui, Le Samouraï, oui, en 1967, où là Jean-Pierre Melville l'a appelé directement. Et donc c'est un travail qui tenait beaucoup à cœur à François et qui l'a fait avec beaucoup de passion. Et ensuite, malheureusement, Melville a choisi un autre compositeur pour continuer, alors que François avait fait un travail excellent, donc on ne sait pas trop pour quelle raison Melville a choisi de continuer en fait avec l'orchestrateur du Samouraï qui était Éric de Marsan. Mm-hmm. Peut-être pour des raisons de souplesse, peut-être qu'Éric de Marsan était un compositeur qui acceptait peut-être les idées de Melville plus que François. Il y avait peut-être des petits conflits.
En même temps, j'ai lu c'est Stéphane Lerouge qui avait recueilli pas mal de témoignages pour je ne sais plus quel disque de la collection. Et c'est vrai que François disait que il avait vraiment dû se plier pour Melville et que c'était une façon de travailler dont il n'avait pas l'habitude. Et que là, travailler avec Melville, effectivement, ça l'avait obligé à être vraiment très à écouter ce que disait Melville. Il avait dit, tout le monde m'avait dit que ça serait très difficile de bosser avec lui. À partir du moment où on écoute ce qu'il veut, ça va. Mais je tiens juste à dire une petite chose sur cette musique, c'est que c'était effectivement une musique très particulière, puisque dans les premières minutes du film, pour tous ceux qui connaissent le film, Delon ne parle absolument pas. Donc on n'a strictement aucune information, si ce n'est ce que l'image nous apporte de lui, et la musique. Et c'était effectivement une commande par rapport à ça, de vraiment préciser quel était le personnage qu'interprétait Alain Delon à travers cette musique.
Toute une ambiance, ce thème du samouraï, puis le film aussi, bien sûr. Je vous propose d'écouter un extrait de ce film, en fait, du thème principal du samouraï. L'homme orchestre à l'instant, c'est un thème qu'on aime beaucoup ici, d'autant plus qu'on a la chance et le grand honneur de recevoir une partie de l'équipe du film. Je l'avais annoncé tout à l'heure en début d'émission. Merci à Serge Corbert, René Goliard et Rosario Luna d'être là. Et oui, Serge Corbert, donc vous êtes le réalisateur de L'Homme Orchestre.
Oui, absolument, oui.
Un film avec Louis de Funès, une espèce de comédie musicale pop, on va dire.
Oui, on peut dire ça.
Si la définition vous convient.
Oui, 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 on peut le dire.
Et
je tiens. On ne savait pas ce que ça voulait dire à l'époque, ça.
Eh oui.
Ça n'existait pas.
Non, c'est moi qui dis ça comme ça.
Oui, oui.
Voilà. Et alors, chose importante, je tiens à le souligner aussi, c'est que vous trois, donc Monsieur Goliard, Rosario Luna, et vous, Monsieur Corbert, vous ne vous êtes pas revus depuis le tournage du film.
Si on s'est un petit peu vu après,
non ?
On a même retravaillé ensemble sur des films, oui. Avec Rosario, je ne pense pas.
Non, en tout cas, voilà, c'est sûr, Rosario et vous, Monsieur Corbert, vous ne vous êtes jamais revenus.
Eh bien, nous n'avons pas changé.
Eh oui.
Non, on s'est reconnus, c'est formidable.
On s'est reconnus, oui.
C'est déjà pas mal.
C'est vrai.
L'Homme Orchestre, donc 1970, pour vous, c'était un projet un peu spécial, Serge Corbert ?
Très spécial, parce que De Funès avait envie de changer.
Eh oui.
Voilà. Donc les deux films que j'ai fait avec lui étaient des films totalement différents de ce qu'il faisait. C'est-à-dire L'Homme Orchestre, qui est une comédie musicale, et Sur un arbre perché, qui est un film qui n'était pas fait pour lui.
Eh oui.
Qui était fait pour Yves Montand et Annie Girardot. Et quand je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit « mais ça, je veux faire ça ». Donc il a fallu adapter le sujet. Mais bon, c'était une pièce de Beckett, hein. C'était deux, trois personnages dans une voiture. Et comme De Funès, lui, est formidable lorsqu'il bouge, là, forcément, il était un peu coincé, quoi. Mais il avait envie de faire ça. Donc c'est vraiment deux films hors champ, disons, qui ne font pas partie des films qu'il a fait avant et après, quoi.
Et avec, en plus,
il en était conscient. Hein.
Avec en plus la chance d'avoir son fils à ses côtés, Olivier De Funès, dans les deux films.
Oui, dans les deux films. Exactement, oui.
Parce qu'en plus, Olivier De Funès est un formidable batteur de musique. On le voit
oui,
bien
oui.
dans le film.
Mais on le voit dans L'Homme Orchestre, oui, c'est lui qui démarre le film pratiquement, oui. Voilà.
Et donc, voilà.
Vous avez fait appel donc à René Goliard pour la chorégraphie.
René Goliard, qu'on se connaissait de l'Olympia ou de je ne sais pas quel musical.
On avait déjà fait plusieurs courts-métrages ensemble.
Oui, tout à fait.
Ouais,
tout
je pense à fait. Oui,
on a démarré ensemble, en fait.
Maille Dubois, Trintignant. Enfin, c'est
oui, oui, voilà. oui, avec Jean-Louis Trintignant, mais ça date des...
Et je suis responsable du mariage de Rosario et de François de
Roubaix. Ah, ça, c'est, voilà, non, je peut-être
suis,
une,
là, je suis,
une anecdote que Gilles
ne
connaît pas.
Vous ne connaissez pas, mais non,
j'ai un scoop.
Moi, j'avais une compagnie de ballet à la télévision, et quand j'ai été engagé par Corbert, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour L'Homme Orchestre, j'ai engagé Rosario, bien entendu. C'est à ce moment-là, ils se connurent, ils se plurent, et ils se marièrent.
Et ils eurent
voilà.
un enfant.
Et ils eurent un enfant. Voilà. Donc je suis responsable.
Comme dans les
contes
de fées, quoi.
Voilà.
D'ailleurs, c'est tout ce que je dis, tout ce que je dis dans le film. On va se marier.
Oui, c'est, vrai.
Ouais.
C'est la seule phrase.
C'était tout mon texte.
C'est vrai que c'était pour, dans le film L'Homme Orchestre, ta phrase c'était Se va a casar.
Se va a casar,
en espagnol.
Exact.
Rosario, quel souvenir vous avez de ce tournage ?
Épouvantable.
En tant que danseuse déjà. Déjà en tant que danseuse, et puis voilà, vous êtes fait des copines apparemment
oui,
à l'époque.
On était un groupe très agréable, très très bien.
Vous enfin, vous connaissiez à peu près toutes.
Oui, on se connaissait parce qu'on travaillait à la télé. On faisait des films et puis on était toujours avec René qui nous stimulait, qui nous disait il faut être prête.
Ah, oui.
Et il était quand même assez drôle, il nous racontait des histoires. C'était très agréable, vraiment. Je des Funès, ne parlons pas. Donc, ah, j'ai trouvé qu'il avait une patience.
Il faut dire qu'il valait mieux bien s'entendre parce que le film, on devait le tourner en 11 semaines et on l'a tourné en 22. On a doublé le
oui,
temps de
22 semaines, c'était...
Mais alors ça, ça a demandé des budgets supplémentaires, j'imagine
Énormément, mais c'est sur un gag quand même. Hein.
Ah oui.
C'est-à-dire que De Funès voulait une augmentation, Lagomont a refusé, et il m'a dit on va mettre beaucoup de temps pour faire le film.
Ah, d'accord.
Et effectivement, on a mis beaucoup de temps. Et d'accord. Gaumont n'a jamais lâché. C'est-à-dire qu'ils auraient pu donner... ce que De Funès demandait, et on aurait fait une économie gigantesque.
Et oui.
Parce qu'imaginez 200 techniciens, les décors montés, les 15 danseuses, pendant 11 semaines de plus, c'était énorme.
Et oui.
Mais par orgueil, personne n'a lâché. Et nous avons mis 22 semaines, et à chaque fois, c'était 45 prises par plan. Quoi.
Mais oui, c'était assez long, hein, laborieux.
C'était long, mais amusant. Hein, c'était intéressant.
Mais c'était amusant
voilà,
quand
c'est
même.
Ça,
et puis, on ne regrettait pas hein, de faire des prolongations. Ça nous plaisait beaucoup.
C'était une belle aventure pour vous tous.
Très belle aventure.
Oui, on a commencé à la Toussaint, on a fini à Pâques.
Oui, c'est vrai. La collaboration avec François et Corbert a été formidable.
Ah oui, oui.
Je ne connaissais pas François, moi, avant le film... Et quand on m'a présenté François, j'étais un petit peu inquiet. Toujours un chorégraphe collaboré intimement avec le musicien. Et puis ça a démarré tout de suite. Quoi. La première journée, ça y est, c'était fait. Quoi. On s'est amusé sérieusement pendant pas mal de temps.
Ah oui. Il est venu.
J'ai dit bien sérieusement parce qu'il avait beaucoup d'humour. Serge ne manque pas d'humour. De François n'en manquait pas. Et moi, j'aime ça. Alors, donc, ça
et
fait un trio.
Plus, hein.
De Finis non plus. Non, non. De Finis, c'était un peu particulier. Ça, c'est autre chose.
Et justement, pour des danseurs, de danser sur cette musique-là. Parce que...
Ah, ben, c'était une musique qui vous porte. Hein. C'était une musique qui n'est pas.
C'était une musique qui nous portait bien. Ouais. Et c'était vraiment entraînant. C'était très agréable.
Il y avait un travail quand même, on réglait beaucoup les styles,
ça rectifiait
les tempos.
Oui, parce que j'imagine que François de Roubaix est arrivé avec de la musique, mais il fallait que ça colle avec l'image, forcément.
Exactement.
Au niveau timing aussi.
Enfin, avec l'image, avec le ballet, parce que
avec
moi,
le ballet,
je m'arrangeais avec
oui,
ça.
Oui, au niveau du montage.
Mais
oui.
Il fallait surtout qu'il y ait un style, le bon rythme, et que tout ça s'accorde. Quoi.
Et quand De Funès participait au ballet, il fallait adapter... compétences de De Funès, parce que c'était pas un danseur quand même, mais c'est un type tellement habile, extraordinaire.
Il avait le rythme, mais pas le...
Et c'était
D'ailleurs, cette scène est incroyable quand De Funès se met à danser avec ses danseuses.
Oui,
c'est fou. C'est
incroyable. Oui, là, il y a eu une petite anecdote.
Il était musicien.
Oui,
bien sûr.
Musicien.
Oui, pianiste.
Mais l'anecdote a été quand il a voulu répéter, quand j'ai demandé à répéter avec De Funès. De Funès m'a dit oui, d'accord, mais seul, hein, avec vous et votre assistant. J'ai dit bon, d'accord. Et puis les danseuses répétaient dans leur coin. Et puis un jour, il a bien fallu les confronter.
Oui.
De Funès devant, les filles derrière. Il était mort de trac. Mais voir ce monsieur avec la carrière qu'il avait, le voir dans l'état où il était, vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein,
c'est il est très traqueur.
J'ai mis la musique est démarrée, il a fait son boulot mais vraiment formidable et toutes les filles se sont mises à applaudir derrière. Alors là, à partir de ce jour-là, il a été fantastique. Même trop.
Vrai,
même trop, parce qu'après, c'était lui. Elle pouvait faire n'importe quoi. J'avais plus d'autorité, moi. Hein, c'était. On va voir. Ah, monsieur De Funès a dit que. Monsieur De Funès a dit que. Ah, oui, et moi, alors. Bah, faudrait
c'est
quand
vrai.
Même, hein, quand on travaille sérieusement.
Il fallait les reprendre en main. Oui.
Et d'ailleurs, il y a une scène. Apparemment, ça a été une improvisation. C'était une scène où il dit aux danseuses de se taire. Il fait cette. Il mime en
fait. Ah oui, bien sûr.
C'était pas écrit dans le scénar à la base.
Non. Le scénario, lui, donc, était écrit, mais il rajoutait des folies comme ça. Et au bout d'une scène, tout d'un coup, il se mettait à se coudre la bouche pour expliquer qu'il fallait se taire.
Ouais.
Ça, c'était pas prévu. C'était une grande surprise.
Bah, c'était toujours des surprises.
Ah oui, toujours.
Et quelquefois, il fallait le calmer aussi.
Le loup et l'agneau, c'était
le
incroyable.
Loup,
bon,
pas inscrit dans le scénario.
L'histoire. C'est vrai que ça.
Exactement.
Mais c'était une belle aventure.
Ah oui, très.
Mais ça, c'est
le grand souvenir.
Il a improvisé sur l'État. Hein. Il a improvisé.
Oui, bien sûr.
Mais la rencontre avec François de Roubaix, le point de départ avec vous, Serge Corbert, ça
alors,
s'est passé comment ?
C'est une autre histoire. C'est que la télévision m'avait demandé de faire une série avec Maria Pacôme qui s'appelait Les Enquêteurs Associés. Et ils m'ont dit, mais on a un contrat de signer, un seul, c'est celui de François de Roubaix. En général, moi, je travaillais avec un autre musicien. Et donc, voilà, il a fallu que je travaille avec François de Roubaix. Et ça a été une grande rencontre, oui. C'était formidable. Et on est restés ensuite pour l'homme orchestre ensemble. Oui. Voilà. C'est ça, la rencontre avec François.
Et sinon, la rencontre, donc, pour Serge, c'était sur les Enquêteurs Associés.
Une série.
Vous avez fait d'autres séries télé après ?
Sans François.
Avec François, non.
Avec François, non.
Non, avec François,
on a fait que les enquêteurs et l'homme orchestre. On devait faire l'arbre perché ensemble, mais je crois qu'il était pris sur un autre film. Et comme on avait des dates de sortie pour l'arbre perché, il n'a donc pas pu.
Il est venu vous proposer ses musiques comment ? Il avait déjà des choses, une trame
François ?
Vous l'avez
Non, du tout. Non, non. On a, on s'est vu plusieurs fois. Lui, en fait, on allait chez lui et on parlait musique. Et tout d'un coup, il prenait sa guitare ou un accordéon.
Et il nous proposait des thèmes, des choses comme ça.
Et on dit, ah, ça, c'est bien, c'est pas mal. Alors, il commençait à l'orchestrer, mais il l'orchestrait sur place, ce qui ne se faisait pas du tout. C'est-à-dire qu'il... Il prenait un accordéon, il disait voilà ce que va faire l'accordéon, voilà ce que va faire le violon, voilà ce que va faire la guitare, et il jouait tous les instruments. C'était complètement magique.
Enfin, c'était lui l'homme orchestre, finalement.
Mais exactement. Ouais. C'est ça. Exactement.
Et oui, et René Goliard, vous
mais
aussi.
C'était formidable de collaborer justement avec lui, parce qu'on souhaitait, on discutait, il proposait.
Oui, il y avait une invention.
Il y avait une invention folle, puis on était là. Et puis, oui, ça, je veux ça, oui, ça, c'est formidable.
Et donc, il y a des musiques qui se sont créées sur place.
Sur place, il y a les musiques. Mais toutes les musiques se sont créées sur place.
Oui, oui, tout à fait.
Toutes les musiques se sont créées
disons,
sur place.
Disons, en s'amusant, en échangeant des idées.
Oui.
Et puis le soir, il faisait des boeufs. Il faisait venir ses musiciens, et puis il jouait ces thèmes-là.
Ah, d'accord.
Donc tout d'un coup, on avait tous les musiciens.
Ils faisaient une maquette après pour les répétitions.
Ils faisaient une maquette pour les répétitions.
Pour les répétitions, voilà. Ils faisaient une maquette après. Ben, c'était, mais ça se créait comme ça. Il n'amenait pas une musique complète. Non. On était tous les trois, la plupart du temps, autour de...
Il y a un morceau très spécial dans cette musique de film, c'est Les Poupons.
Oui.
Poupons, pour ceux qui ne connaissent pas le morceau, c'est une chanson, en fait, puisque carrément une chanson, interprétée par les deux Funès, père et fils.
Oui.
Qui est assez rigolote parce qu'elle a à la fois a ce côté un peu poétique et puis en même temps très enlevé, quoi, comme ça, très pop. Ouais.
Entraînant et avec humour.
Oui, voilà, c'est ça, il y a toujours l'humour. Dedans, ouais. Et comment, de quoi c'est parti? C'était une envie de qui de chanter comme ça? C'est vous qui avez demandé?
Ben, oui, parce qu'on s'est dit on va faire une comédie musicale, donc il fallait chanter un petit peu, quoi. D'ailleurs, c'est la seule chanson du film. Hein.
Oui. Après, la chanson avec Olivier du rêve.
Oui, ouais, mais je parle de Louis de Funès. Je lui ai dit, on va chanter une chanson quand même. Il était tout à fait d'accord, il était partant. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu, cette chanson. Le thème musical existait, en tous les cas.
Ouais.
Et je crois que c'est Rémo Forlani qui a écrit les paroles de la chanson.
Ah, on va se retourner vers Gilles.
Gilles.
Je crois. Hein.
Il me semblait bien que c'était François, celle-ci.
Qui ça?
François lui-même, non, les paroles, non, il me semblait bien.
Non.
Rémo Forlani.
Rémo Forlani a écrit deux chansons dans le film.
Et des poupons.
Celle-là et le ballet dans l'hôtel.
Quand Evan Evans
c'est pas là. Voilà.
On va vérifier.
C'est générique d'ailleurs, je crois. Je m'en
rappelle plus. Mais moi, justement, je vous propose d'écouter d'écouter ce titre parce qu'il me plaît beaucoup et puis c'était une rencontre assez. Alors, Patricia nous vérifiera ça tout à l'heure, elle est en train de me faire des signes, on verra. Peut-être que tu peux nous le dire maintenant, Patricia, parce que tu as le 45 tours, carrément, le 45 tours d'époque des poupons.
Époque.
Non, on verra peut-être après, je ne sais pas. Pardon ?
C'est de quelle année on n'a pas dit tout à l'heure ?
Mais si, 1970.
Ah, 1970.
Oui, c'est ça.
Pardon.
Patricia, tu as l'info ?
Alors, Patrick, qui nous accueille si gentiment à l'Alcazar et qui donc a son propre 45 tours de l'homme orchestre, me dit que c'est François les deux.
Ah.
Donc je vais vérifier au niveau des paroles, parce que je pense que dans les 45 tours à l'époque, on ne marquait pas forcément tout.
Oui. On va vérifier ça. En attendant, moi je vous propose de l'écouter carrément. Voilà, Les Poupons, interprétés par les deux Funès.
De Funès. Famille.
Fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie.
Elles étaient si belles que je n'ai pas pu résister. Je voyais en elles la beauté.
Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave, la vie.
Et moi, dans leur cœur, je retrouvais vérité. Comment, en plein bonheur, me raisonner? Les poupons, les biberons, les berceaux, les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos.
Décidément, ce Gilles, il est vraiment incollable, parce qu'effectivement, c'est bien François qui a écrit les paroles des poupons, et donc Jean-Alain qui a écrit les paroles de, je crois, c'est le Ballet du Rêve, qui est chanté par Olivier de Funès. Voilà, donc bravo Gilles, le livre de Gilles Loison est une mine d'informations. On y puise régulièrement, nous tous les intimes et les amis, pour aller essayer de se remémorer des choses ou pour avoir des précisions.
Alors je sais que Jean-Yves Guilleux, qui est encore avec nous, quelques questions à poser à Serge Corbert.
Oui Serge, moi je voulais savoir comment est née cette idée de faire une comédie musicale. Parce qu'on sait qu'en France, on n'est quand même pas les rois de la comédie musicale, donc comment... Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de ce film? Est-ce que c'est Louis de Funès? Est-ce que c'est la Gaumont?
Non, c'est moi. C'est-à-dire que lorsque Gaumont m'a demandé de faire un film avec de Funès, ça s'est passé comme ça, parce que je venais de faire un film avec la Gaumont, qui s'appelait Un idiot à Paris. Et donc, ils m'ont dit, Louis de Funès a beaucoup aimé le film Un idiot à Paris, il a très envie de tourner avec vous. Donc, c'est Gaumont qui est intervenu. J'ai rencontré Louis de Funès. Il m'a dit, voilà, j'aimerais bien changer, faire quelque chose d'un peu plus tendre, un peu basé sur l'émotion, tout ça. Et puis on s'est parlé, il m'a parlé un petit peu de sa carrière de musicien, de pianiste de bar. Et on s'est dit, ce qui serait formidable, je lui ai dit, on peut essayer de faire une comédie musicale. Ce qui était assez simple, parce qu'avec une locomotive telle que de Funès, je savais que Gaumont ne pouvait pas refuser. Et si De Funès était d'accord, on pouvait y aller, quoi. Et ça s'est passé aussi simplement que ça. C'est-à-dire que chez Gaumont, j'aurais dit, voilà, on va faire une comédie musicale. Et bien, ça, d'un coup, ça a été...
Mais ça, c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps, de faire une comédie musicale ou...
J'aimais beaucoup la comédie musicale américaine, comme tous les gens de cette époque-là. Et pour moi, c'était l'occasion... Parce qu'en fait... j'avais pas du tout envie de faire un film avec Louis de Funès. Je faisais une autre carrière qui était, disons, un peu plus intello, mais idiote, quoi. Parce que quand on a 25 ans, c'est difficile. Voilà, on a choisi, c'était la nouvelle vague. C'était un petit peu honteux de faire un film avec Louis de Funès. Mmh. C'est-à-dire que les copains m'ont charrié. Ils m'ont dit, mais tu vas pas te rabaisser à faire un film avec ce type. Donc, moi, je leur ai dit, c'est la seule façon de faire une comédie musicale. Donc, je fais le film avec Louis de Funès. Voilà. Et c'est parti comme ça. D'accord. C'est parti comme ça. Et lorsque nous avons fini le film, Louis était très très content du résultat. Et il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire après. Là, je lui ai dit, je vais faire un film dramatique, ça va me changer un peu. Je vais faire un film qui s'appelle L'Accident avec Montand et Girardot. Il m'a dit, non, racontez-moi l'histoire, je lui ai raconté. Et c'est comme ça qu'est reparti l'arbre perché, qui était aussi une idée dingo, quoi.
Ouais, mais on est d'accord.
Comment ça se fait, excuse-moi Jean-Yves, comment ça se fait que vous disiez que les gens, du coup, tu vas pas te rabaisser à faire un film avec De Funès? Il avait une...
Ah, c'était une honteux.
C'était honteux, pourquoi?
Ah, mais parce que c'était, entre guillemets, le cinéma commercial. On ne touchait pas à ça.
D'accord.
Du tout.
Avec ce côté et le côté commercial.
Ah, c'est une période terrible pour ça, oui.
Il faut quand même dire une chose extraordinaire avec ce film de l'homme orchestre.
C'était complètement séparé, oui.
C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, L'Homme Orchestre est quand même un film qui reste d'anthologie. C'est assez étonnant. C'est un film... Le disque, en ce qui concerne donc le disque de François de L'Homme Orchestre, ça a été le disque qui est monté le plus haut aux enchères et qui était vendu super, super cher, super rare, super difficile à trouver et que les collectionneurs cherchaient. Et le film, quand il est sorti en DVD, c'est pareil, ou même en VHS au départ, il a une vue étonnante. Je pense que
tout à fait, alors que lorsqu'il est sorti, les gens forcément étaient un peu déroutés par le film, parce qu'ils ne retrouvaient pas un De Funès habituel. Et bon, le film a marché sur Louis de Funès, mais bon, les gens n'ont pas bien compris ce qu'on voulait vraiment faire, quoi. Le film est redécouvert maintenant, c'est très curieux.
Mais justement, c'était ma deuxième question, pardon, Serge. Excuse-moi, Patricia. À quel moment tu as eu conscience que ton film était devenu culte ?
On ne se rend jamais compte de ça. C'est impossible. Ça devient tout seul, comme ça. Voilà, on est toujours surpris. Car on ne sait jamais ce qui va se passer sur les films 20 ou 25 ans après.
Ouais, c'est ça.
Il y a des films qui ont fait d'énormes succès à leur époque, et 25 ans après, on se dit, mais comment ça a pu marcher ? Ça a vieilli terriblement, et je pense que l'homme orchestre n'a pas trop vieilli par ses costumes, et par ses ballets, par la chorégraphie de René et la musique de François. Le film est resté très jeune.
La mise en scène
aussi, oui.
Il y a des clips,
mais bon,
des ballets.
On ne peut jamais savoir si un film va devenir culte. À l'époque, ça n'existait pas, film culte.
Et en ce qui concerne d'autres pays, je crois que tu m'avais dit à un moment donné qu'il y avait des pays qui étaient très friands de l'orchestre.
L'Allemagne a fait son grand record d'entrée, le plus grand record d'entrée.
C'est en Allemagne.
En Allemagne. Et dans les pays de l'Est, surtout les pays de l'Est, l'URSS à l'époque et tous les pays de l'Est, le film a fait 33 millions d'entrées.
Ah, c'est une sacrée information. Hein. Est-ce que tu le savais, Gilles ? Ah, on l'a collé.
Oui, 33 millions d'entrées. D'ailleurs, je suis allé faire un film il n'y a pas longtemps en Tchécoslovaquie et les gens m'appelaient Petit Pas. C'est vrai.
Et le Japon ? Est-ce que le Japon était intéressé par l'orchestre ?
Non, le Japon, non.
Non, ils n'ont pas le De Funès et Delon.
De Funès n'est pas connu au Japon.
Ça ne s'arrête pas au F.
Il n'y a que Delon, oui.
Il n'y a que Delon.
Ils n'ont pas le même comique.
Non.
C'est vrai. On reste ensemble encore pour quelques minutes d'émission et je vous propose de parler encore de François de Roubaix. Le public qui est là peut aussi intervenir à tout moment pour nous poser des questions, il n'y a pas de problème. Entre temps, on va écouter un morceau qui est important aussi dans la carrière de François de Roubaix. C'est Le Dernier Domicile Connu. Un petit mot, Gilles, sur Le Dernier Domicile Connu. Fin des années 60, je crois, non, c'est ça ?
1969, oui, tout à fait. Mais il est devenu en fait important avec les nouvelles générations et les remixeurs, en fait.
Oui.
Le premier étant Robbie Williams, qui a repris une boucle. Non, c'est pas le premier.
Sur le dernier.
Pas le premier. Non, le premier, c'était Dave Bond du groupe, pas du groupe IAM, de Keops, qui fait partie du groupe IAM, qui avait donc fait sur Forest Hill.
Forest Hill, ouais. Le premier album solo de Keops. Et ensuite, je pense qu'il y avait
Robbie Williams, Lil Bowo.
Le morceau.
Il y a eu Diamond, je ne sais plus exactement son nom, un crooner un peu, qui a fait aussi un remix sur Dernier Domicile Connu.
Non, mais je ne sais pas.
Enfin, oui, ça c'est dans les Cinémix. Ça c'était différent.
Missy Elliott qui avait invité MC Solar, ils avaient en fait un peu réinterprété le thème, c'était largement inspiré du Dernier Domicile Connu. Voilà, un film avec Lino Ventura, Marlène Jobert.
Oui. Mm-hmm. Un polar qui est devenu avec les années un film important, mais à l'époque bon, c'était déjà un très très bon film policier de José Giovanni.
Vous allez de suite reconnaître ce thème, Le Dernier Domicile Connu. Thank you.
être le moment. Peut-être que ça va être le moment de vous poser des questions, de voir s'il y a des questions du public. Non, il n'y a pas de questions. Madame, décidément, s'il n'y a pas de questions. Vous avez tous lu le livre de Gilles Loison, le François de Roubaix, Charmeur d'émotions, qui est paru au chapitre 12. Ah, si, monsieur. Monsieur a une question.
Alors, d'abord, merci de parler de François de Roubaix, c'est une bonne occasion. Moi, ce nom, il est lié à Un souvenir d'enfance, qui est une série complètement culte, celle-là, Chapi-Chapeau. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qui se fait pour les enfants est extrêmement calibré. On a l'impression, à l'époque, on pense à la musique des Shadok, à celle de Chapi-Chapeau, qu'il y avait une part de créativité beaucoup plus importante aujourd'hui. Mais savoir comment il s'était retrouvé sur cette série et...
Déjà, il avait déjà fait avec les Bétioles, si je ne dis pas de bêtises, Pépin la Bulle.
Oui, Pépin la Bulle, et même un petit court-métrage en 65 avant. Oui, Pépin la... Non, c'était...
ça y est, Gilles cale.
Le pauvre Gilles.
Ça a été dur, hein, ça fait une heure qu'on rame.
La petite histoire d'un billet de banque, je pense. Voilà.
D'accord.
Et donc, en fait, oui, c'était conséquemment à Pépin la Bulle, où tout le monde s'était beaucoup follement amusé. Et là, Chapi-Chapeau, je pense que ça, tu y as participé toi-même.
Oui, c'est mes premiers rires de bébé qui avaient déjà été enregistrés avant. Et puis ensuite, il m'a fait travailler un petit peu sur certaines voix pendant les petites animations. Mais il a fait aussi pas mal de pubs, il faut le dire,
oui.
avec Monsieur Zincone, Bruno Zincone, qui est de la Maison de la Pub et qui nous en a prêté notamment certaines qu'on diffuse de temps en temps, dont certaines pubs avec la musique de François.
Qu'on remercie d'ailleurs.
Qu'on remercie énormément. C'est un formidable travail que fait la Maison de la Pub. Et il y a aussi... Donc, il a fait des pubs et il a fait aussi des séries télé. Donc
ah oui. On peut citer les plus célèbres déjà.
Les plus célèbres, les Chevaliers du Ciel.
Commissaire Moulin aussi.
Commissaire Moulin, ça c'était la fin. Ouais. En fait, il a fait que le générique pour le Commissaire Moulin.
Il a fait Moulin, que le générique.
Parce que ça lui a quasiment été arraché par Claude Boissel avant son départ, son dernier voyage.
Et c'était sa dernière musique. Sa toute dernière musique qu'il a fait à la maison.
Il a déposé chez Claude Boissel juste avant de prendre l'avion.
Et après, il est mort.
Et en fait, il n'avait pas vu l'épisode pilote. Il a fait ça sur une description de Claude Boissel. Et une musique magique. Quoi.
Il y avait Les Secrets de la Mer Rouge aussi. Et la Mer Rouge est
avec deux volets, un en 68 et un en 74. 68 acoustique et en 74 avec réutilisation des thèmes de 68 avec injection de l'électronique. Et là, c'est deux pendant. On voit les deux époques du travail de François.
Et je sais qu'il y a un morceau qui te plaît beaucoup, Mafia au Moyen-Orient.
Tout à fait.
Qui mêle un peu justement ce côté acoustique et un peu plus électronique, on va dire.
Oui. Il est même celui-ci franchement électronique. Oui.
Ouais. Il mériterait d'être remixé celui-ci.
Ah mais il y a beaucoup de monde qui ça frétille vraiment au niveau du remix et moi je trouve que c'est quelque chose de formidable notamment avec l'association donc on a monté avec Gilles et Sandrine et on a pour but aussi de continuer à faire connaître la musique de François et aussi de donner un coup de pouce à la création musicale. C'est pourquoi on a monté le prix coup de pouce et on a demandé à des gens qui n'avaient jamais des musiciens qui n'étaient jamais passés qui n'avaient jamais été diffusés dans les réseaux grand public de nous envoyer un remix d'une des musiques de François et une composition original pour figurer en titre bonus. Là, ça a été donc sur le Monde électronique volume 2 qui va paraître à la fin du mois chez Universal. Donc on retrouvera deux lauréats et on leur demandait donc de le faire en électronique. Et c'est vrai que du coup, il y a tout un monde de remix qui se monte avec des gens qui arrivent avec vraiment leur propre univers, qui viennent rencontrer celui de François et qui font après une troisième œuvre avec tout ça. Et ça, je trouve que c'est formidable. C'est une façon de faire un clin d'œil au passé, d'aller plus loin dans l'avenir et puis en même temps de lier tout ça et de continuer à le faire vivre. Et je suis sûre, je pense que Rosario ne me contredira pas, mais ni personne autour de cette table, je pense que François aurait bien aimé comme ça qu'on s'empare un peu de sa musique, qu'on la bidouille et de voir qu'il y avait ce témoignage autour de sa musique, qu'elle continue à vivre avec des jeunes qui la reprennent à leur compte.
Bien sûr. Lui, il a commencé, il a même pris des cours de, comment il s'appelle,
Peter pour le synthétiseur.
Cours, c'était tout à fait nouveau à l'époque.
Mais oui. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde dans son home studio fait de la musique beaucoup plus facilement.
Oui, bien sûr.
Et oui. D'ailleurs, puisqu'on parlait de la télé et des séries télé, je vous propose d'écouter donc le fameux Chapi-Chapeau.
Ah.
Allons-y.
Chapi-Chapeau, patapou, chapeau-chapi, patapi. Pacha, pacho, pitipo, pacho, pacha, pitipa, piripipi, rabada, dida. La, 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 la,
Donc effectivement, il y avait aussi un autre film qui a marqué la carrière de François et qui était quand même un film sur la fin. C'est un monsieur dans le public qui nous l'a rappelé.
Jean-Yves en parlait tout à l'heure, c'est Le Vieux Fusil, parce qu'il a reçu un César posthume pour cette musique. Tu pourrais nous en parler un petit peu, tu as des souvenirs de ça dont tu disais tout à l'heure.
Le Vieux Fusil, écoute, moi je ne l'ai pas vu au cinéma parce que mes parents me disaient que c'était un film très violent, donc pourtant j'avais vu Little Min Man, j'avais pas 13 ans, mais celui-là, Le Vieux Fusil, j'ai pas le droit de le voir, donc j'ai découvert plus tard, vraiment plus tard, et c'est vrai que quand tu le revois encore aujourd'hui, vous verrez dans le documentaire, c'est un film choc, quoi. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui on ferait le film, quoi, parce que c'est assez terrible, quoi.
Mais François avait même peur, hein. Il avait peur du résultat, il disait que c'était un film trop noir, il avait peur que ça ne marche pas pour ça.
Noir est à contre-emploi, le sujet est terrible, ça se passe pendant la guerre.
Il y a quelque chose qui est dit dans ton film et que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement on parle du fait que le bruit du lance-flamme, par exemple, était complètement faux. C'était François qui le faisait en musique.
Oui, c'est ça.
Enfin, en musique.
C'est un
bruitage créé par les synthés, par François. Donc, ce qui donne un peu, ce qui décale un peu de
ouais, c'est ce qu'on a découvert aussi, effectivement, c'est qu'il n'était pas que musicien, il était aussi un peu son designer, en tout cas. C'est ce qu'il a fait sur Le Vieux Fusil. Il a proposé ça à Enrico et Enrico l'a pris, quoi. Et c'est vrai que quand on réécoute et qu'on voit le film, waouh!
C'était aussi un réalisateur. Il faut dire qu'il a fait quand même deux courts-métrages.
Absolument.
Qui était Le Gobo, qui était un court-métrage avec les prises de vue sous-marines, principalement, enfin, qui était sur les deux plans. Et il a fait aussi Comment ça va, je m'en fous, qui lui a valu le deuxième César posthume l'année d'après pour le court-métrage.
On aurait beaucoup de choses à dire sur François de Roubaix encore. Malheureusement, il nous manque du temps. Ce qu'on peut dire, c'est que pour tous les gens qui s'intéressent à l'univers de François de Roubaix, de se procurer cette Bible qui a été écrite entre autres par Gilles Loison ici présent, François de Roubaix, Charmeur d'émotion, un livre
paru au chapitre 12.
Voilà, chapitre 12. Et puis bien sûr se plonger aussi dans cette fameuse collection Écouter le cinéma, dirigée par Stéphane Lerouge chez Universal Jazz. Des disques en plus à petit prix, on peut le dire, c'est assez abordable, c'est bien pour que les gens puissent avoir accès à tout ça. Et puis il y a aussi Francis Dreyfus qui a réédité certains disques.
Oui, ils ont fait un travail génial. Ils ont fait aussi Les Secrets de la Mer Rouge, ouais. Avec la voix d'Henri de Monfred qui raconte son histoire, ce qui est assez génial.
On va d'ailleurs se quitter sur ce morceau. Et puis,
grand merci. Moi, je tenais à remercier bien sûr Patrick Casse qui nous a accueillis ici formidablement. Et avec, pour tous ceux qui ne le voient pas puisque vous écoutez la radio, savoir que nous avons des micros tout à fait l'homme orchestre de toutes les couleurs.
Toutes les couleurs, très
bien garés. On est déjà dans l'univers.
On remercie Patrick Cass, Emmanuel Pinguet de l'Alcazar, hein, bien sûr, qui a été là aussi, qui a fait le lien pour que tout se fasse comme il faut. Et puis nos invités, bien sûr, Rosario Luna, merci d'être venu. Monsieur Goliard, chorégraphe de l'Homme Orchestre, merci aussi. Serge Corbert. Et puis Jean-Yves Guilleux, réalisateur du documentaire qu'on aura.
Voilà, qui vont voir, je ne sais pas si les gens le savent, mais ils le voient en exclusivité, puisque c'est quand même la deuxième avant-première.
Ouais, deuxième avant-première en France.
Paris, c'est Marseille.
Et voilà. Et la première, il y aura une diffusion télé l'année prochaine.
La première diffusion télé sera début 2007 sur Ciné Cinéma.
Voilà.
Avant la sortie DVD qui sera un petit peu plus tard, mais voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus.
Je suis très, très fière, enfin très touchée de ce film fait sur François, et j'ai vraiment. Je sais que Jean-Yves était très très inquiet de notre réaction, également pour Gilles d'avoir fait ce livre sur François. Ils étaient tous un peu anxieux de savoir comment on réagirait, et on a vraiment tout, je peux le dire au nom des intimes qui l'ont vu et lu, qu'on était tous bluffés et qu'on a vraiment énormément apprécié votre travail.
Merci. Donc, merci à tous, merci Jean-Yves, merci à tous nos invités, et puis tous les gens présents ici aujourd'hui à l'Alcazar, merci à vous chers auditeurs de Radio Grenouille. Nous nous quittons donc sur un morceau extrait de la série Les Secrets de la Mer Rouge, un morceau qui s'intitule Mafia au Moyen-Orient. À très bientôt.